Vous êtes bien à l'écoute de RFI, il est 11h ici à Paris, 1h de moins en temps universel.
Simon Bourtembourg.
Le journal avec à la une les interrogations encore après l'attaque à la voiture Bélier à Magdebourg en Allemagne hier soir. Un suspect a été arrêté, ses motivations restent floues, la piste du terrorisme islamiste n'est pas privilégiée. Washington abandonne son offre de récompense pour l'arrestation du nouveau dirigeant syrien. Un premier pas vers ceux qui ont chassé Bachar al-Assad il y a presque 2 semaines. Abu Mohamed al-Zoulaini assure lui vouloir contribuer à la paix régionale et construire des partenariats privilégiés. Et puis le français Orano engage un arbitrage international contre le Niger. Le géant du nucléaire n'accepte pas le retrait de son permis d'exploitation d'un gisement dans l'État sahélien. Le chancelier allemand attendu dans les prochaines heures à Magdebourg, Olaf Scholz, doit se rendre dans la ville meurtrie hier soir par un attentat à la voiture Bélier. Une nouvelle fois, en Allemagne, c'est un marché de Noël qui a été visé. Une voiture a foncé à vive allure dans la foule. Le bilan provisoire fait état de 2 morts, dont un enfant. Une 60aine de blessés sont aussi à déplorer. 15 d'entre eux sont toujours dans un état grave. L'assaillant a lui été arrêté, mais sa motivation reste floue. Pascal Thibault, on en sait tout de même un peu plus ce matin sur son profil.
L'homme âgé de 50 ans est originaire d'Arabie Saoudite et travaillait dans la région de Magdebourg. Arrivé en 2006 pour ses études, il avait une formation de médecin psychiatre et avait obtenu le statut de réfugié en 2016 en raison visiblement de son hostilité au régime saoudien. Dans une interview à un quotidien allemand, il se présentait en 2019 comme un critique agressif de l'islam. Cet activiste connu dans la communauté saoudienne aidait grâce à un site des personnes persécutées dans son pays à obtenir l'asile politique, notamment en Allemagne. Son hostilité à sa religion d'origine semble être devenue de plus en plus radicale. Il avait sur le net dénoncé le danger d'une islamisation de l'Allemagne. Taleb A se considérait comme victime de persécutions dans son pays d'adoption et dénonçait la police qui aurait refusé de le protéger et même un plan pour chasser les réfugiés saoudiens d'Allemagne. Il avait écrit sur le net que seul le parti d'extrême droite, AFD, pouvait le protéger. Il avait également émis des menaces sur les réseaux sociaux évoquant une possible vengeance et rêvait d'une académie composée d'anciens musulmans pour combattre l'islam en Allemagne. Pascal Thibault, Berlin RFI.
Et les réactions ont été nombreuses après cet attentat. L'Arabie Saoudite exprime sa solidarité avec l'Allemagne et rejette la violence. Les États-Unis se disent choqués et attristés. Sentiment partagé par Emmanuel Macron qui assure que la France partage donc la douleur de l'Allemagne. Le président français qui a lui quitté Mayotte en promettant le raccordement au moins de façon partielle des foyers à l'eau et ce dès aujourd'hui. La priorité des priorités, c'est le combat pour l'eau potable, l'eau de consommation, a affirmé le chef de l'État, et ce au terme de sa visite dans l'archipel dévasté par le cyclone Chido. Emmanuel Macron qui a par ailleurs averti que pendant des mois, Mayotte ne vivra pas en situation normale. Par exemple, les écoles ne pourront pas toutes rouvrir à la rentrée du 13 janvier prochain. Washington abandonne son offre de récompense prévue pour l'arrestation d'Abu Mohamed al-Zoulaini. Le chef du groupe islamiste radical HTS a lui rencontré des diplomates américains. Ils sont arrivés hier à Damas. Ce matin, le nouveau pouvoir syrien assure vouloir contribuer à la paix régionale et construire des partenariats privilégiés. Mais la coalition qu'il a formée avec d'autres forces syriennes semble fragile. Nos envoyés spéciaux se sont rendus dans la Ghouta, ce bastion de la rébellion en périphérie de Damas qui a subi des années de bombardements et de combats. Là-bas, les groupes rebelles armés issus de la population locale ont repris le contrôle de la zone dans une unité qui est incertaine avec HTS. Le reportage à Douma dans la Ghouta de Julien Boileau et Oriane Verdier.
Bilal avait 18 ans en 2011 quand la révolution a commencé. À la mort de son meilleur ami, tué par le régime, il a rejoint le groupe armé Jaïch al-Islam. Après des années de combats et de bombardements dans la Ghouta, Bilal s'est finalement réfugié avec sa famille dans le nord du pays. Lorsqu'il a entendu parler de l'offensive vers Alep, il a repris les armes.
Nous avons passé un accord avec les HTS. Avant le lancement de cette offensive, Ayat Tahrir al-Sham interdisait tout groupe armé qui n'était pas sous son contrôle. Pour libérer Damas, nous avons mis nos désaccords de côté. Mais ici, nous sommes tous de la Ghouta. Nous sommes entrés dans Damas sous le nom des rebelles de Damas.
Aujourd'hui, l'autorité de transition semble n'être tenue que par Ayat Tahrir al-Sham. Face à cette constatation, Bilal préfère laisser la parole à son aîné Ali.
C'est vrai, personne ne peut le nier, mais nous sommes fatigués après 13 ans de guerre. Alors on s'en remet à Dieu, mais nous pensons que le nouveau pays et son autorité devraient appartenir à tout le monde, druzes, chrétiens, musulmans, à tous les citoyens.
Hors micro, Ali nous affirme que Ayat Tahrir al-Sham ne représente en réalité que 20% des hommes qui ont libéré la Syrie et refuse d'être assimilé à un groupe considéré comme terroriste par la communauté internationale. Julien Boileau, Oriane Verdier, Douma, RFI.
La banlieue de Tel Aviv, visée cette nuit par un nouveau tir des Houthis. Des tentatives d'interception ont été menées sans succès, reconnaît l'armée israélienne. Le missile s'est écrasé à Jaffa, au sud de Tel Aviv. Les vitres d'immeubles du quartier ont volé en éclats. 16 personnes ont été blessées, dont une fillette de 3 ans. Par ailleurs, ce matin, le pape a lui condamné la cruauté de la frappe qui a tué hier 7 enfants à Gaza. Ce matin, des drones ukrainiens ont endommagé des immeubles d'une ville du centre de la Russie. De son côté, Moscou revendique la prise d'un village dans une zone clé de l'Est ukrainien. La Russie donc sur le front ukrainien, mais qui s'emploie également à évacuer ses navires militaires du port de Tartous après la chute de Bachar al-Assad en Syrie. Une opération organisée dans l'urgence à laquelle des problèmes mécaniques sont venus s'ajouter. C'était au large de la Bretagne. Franck Alexandre.
Mardi 17 décembre, 21h51, la nuit est tombée sur la toujours très agitée mer d'Iroise. C'est alors que retentit l'alerte. Les autorités maritimes ont détecté une anomalie sur la voie descendante du rail Douai 100. Le porte-container russe Sparta, 120 mètres de long, est visiblement en grande difficulté.
J'ai des problèmes, j'ai actuellement les moteurs en panne, la barre ne répond plus, on essaye de réparer dans les prochaines minutes.
Sans moteur, le navire va alors, durant 61 minutes, subir une dérive non contrôlée dans une mer formée au milieu des autres bateaux.
Tout est réglé, tout fonctionne, on reprend notre cap.
Après avoir refusé toute assistance, le Sparta finit par reprendre sa route, sa très longue route vers la Méditerranée, mais sans avoir pu cacher à la marine française son triste état, véritable reflet d'une marine russe qui peine à maintenir ses navires au meilleur standard.
Franck Alexandre, spécialiste défense de RFI. Au Pakistan, 16 soldats ont été tués dans l'attaque d'une base militaire près de la frontière avec l'Afghanistan. Un haut responsable des renseignements assure que plus de 30 combattants ont mené l'assaut. Les talibans pakistanais ont revendiqué l'attaque, affirmant qu'il s'agissait de représailles après le martyre de hauts commandants. L'actualité africaine et ce bras de fer qui continue entre Orano et le Niger. Le minier vient d'annoncer qu'il engageait une procédure d'arbitrage international pour régler son contentieux avec l'État sahélien. Une démarche qui fait suite au retrait de son permis d'exploitation d'Imouraren qui n'a jamais été mis en exploitation. Marie-Pierre Olfan.
Les médiations menées depuis le retrait du permis d'exploitation d'Imouraren le 19 juin se sont révélées infructueuses. C'est le constat fait aujourd'hui par Orano qui, pour défendre ses droits, s'en remet donc désormais à un cabinet d'avocats basé à Paris et spécialisé dans les questions d'arbitrage. Orano avait déjà évoqué la possibilité de mener une action en justice suite à ses déboires avec la Somaïr, sa dernière filiale en activité dans le pays. Début décembre, le géant français du nucléaire avait annoncé avoir perdu le contrôle opérationnel de la société des mines de l'Aïr, qu'il détient pourtant à 63%. Cette perte de contrôle s'est traduite ces dernières semaines par le non-respect de décisions prises en conseil d'administration. Résultat, selon Orano, la situation financière de la Somaïr se dégrade chaque jour un peu plus et faute de pouvoir être exportée à cause de la fermeture des frontières, les stocks d'uranium s'accumulent. Niamey n'a pas caché ces derniers mois sa volonté de réorganiser son secteur minier, ni son son désir de se rapprocher de nouveaux partenaires, qu'ils soient russes, turcs ou encore iraniens.
Marie-Pierre Olfan du service économie d'RFI. Et puis en France, l'EPR de Flamanville n'est toujours pas raccordé au réseau. L'opération inédite depuis 1999 était pourtant initialement prévue hier matin. RFI, il est 11h, bientôt passé de 10 minutes ici à Paris. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi.